Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Rebonsoir à tous et à toutes. Au micro de nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, pour ce second bulletin d'information de la soirée. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontrera demain à Paris son homologue russe Sergueï Lavrov. Ils vont essayer de trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine, solution qui pourrait arrêter la concentration de forces russes autour de ce pays. Les officiels américains ont confirmé la nouvelle, mais n'ont fourni aucun détail spécifique à ce sujet. C'est une longue conversation téléphonique entre le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine qui a permis ce nouveau round de pourparlers. Il s'agit là d'un nouvel effort pour désamorcer la crise qui, en quelques semaines, est devenue le problème le plus sérieux entre la Russie et les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Washington et ses alliés ont insisté sur la nécessité d'une solution diplomatique aux différends sur l'Ukraine, y compris l'annexion controversée de la Crimée par la Russie. Ces derniers jours, il y a eu une augmentation considérable de la concentration de forces russes près des frontières ukrainiennes. Mais Sergueï Lavrov a dit aujourd'hui à la télévision d'État russe que son pays n'a aucune intention d'envoyer ces forces-là en Ukraine. Le président Obama est en route pour Washington après une tournée diplomatique d'une semaine en Europe et au Moyen-Orient, où il a rencontré hier, près de Riyad, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Les deux leaders ont discuté essentiellement des tensions créées par la guerre civile en Syrie et le programme nucléaire iranien. Avant de quitter Riyad, le président Obama a remis à Maha al-Munif le prix international Femme de courage du département d'État américain pour sa lutte contre la violence contre les femmes et les enfants. En Égypte, un tribunal a condamné à mort deux partisans du président déchu Mohamed Morsi en rapport avec la violence consécutive à son renversement par l'armée en 2013. Les deux prévenus étaient jugés pour avoir jeté d'un toit à Alexandrie deux personnes lors de manifestations réclamant le retour de M. Morsi. Les autorités intérimaires sévissent depuis 9 mois contre les partisans des frères musulmans et de l'ancien président toujours en détention. Récemment, un tribunal de Minya a également condamné à mort 529 membres des Frères musulmans pour le meurtre d'un policier, une attaque contre un poste de police et autres actes de violence. D'autre part, toujours à Minya, quelques 700 membres de la confrérie sont jugés pour différents chefs d'accusation, dont meurtre et incitation à la violence. Les autorités égyptiennes qualifient les frères musulmans de terroristes et ont arrêté beaucoup de leurs leaders. En Afghanistan, des militants talibans ont lancé aujourd'hui une attaque contre le quartier général de la Commission électorale indépendante à Kaboul, la dernière en date en prélude à la présidentielle de la semaine prochaine qu'ils se sont jurés de perturber. Selon des responsables afghans, les assaillants ont usé d'explosifs à partir d'une maison proche peu avant le début d'une conférence de presse. Les officiels électoraux ont dû se réfugier dans des salles spécialement sécurisées du bâtiment bien protégé qui ressemble à une forteresse. Et un porte-parole de la police a dit à la Voix de l'Amérique que 5 assaillants ont été tués lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité et 2 policiers ont été blessés. Les assaillants étaient revêtus de burqa, la tenue traditionnelle des femmes afghanes, qui les couvre de la tête aux pieds. Profitant de l'amélioration des conditions météo, les avions et bateaux ont continué aujourd'hui leur recherche dans l'océan Indien, espérant retrouver les débris du vol 310 de Malaysian Airlines. Plus de 100 secousses secondaires ont été signalées dans le sud de la Californie à la suite d'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 qui a secoué la région de Los Angeles.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Nous sommes avec Julienne Lussange. Donc, vous êtes la présidente de Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral. Vous êtes également un membre du comité consultatif de la campagne internationale pour mettre fin au viol et à la violence basée sur le genre en période de conflit. Vous êtes actuellement en déplacement, un grand déplacement pour faire le plaidoyer de ces femmes victimes. Vous avez été devant le Conseil des droits de l'homme en session spéciale. Déjà, dans un premier temps, pourriez-vous me dire très brièvement quelle était cette session exactement ?
Oui, c'est le Conseil des droits de l'homme. Il y avait une session spéciale pour un dialogue de haut niveau concernant les violences sexuelles en RDC. Et c'était avec les autres personnalités. Il y avait Mme Bangoura, qui est l'envoyée spéciale pour les violences faites aux femmes. Il y avait nos deux ministres, ministre de la Justice, ministre du Genre, de la RDC qui était là. Il y avait le numéro 2 de la mission des Nations Unies au Congo. C'était donc des grandes personnalités et moi, j'étais là comme société civile pour apporter notre expérience par rapport à la lutte contre les violences sexuelles.
Alors, Madame Pillay a fait un constat terrible encore aujourd'hui. Elle a dit finalement que ça continuait, hein, et non pas seulement dans l'est de la RDC, mais dans tout le Congo. Elle a bien noté que le gouvernement avait fait de gros efforts. Et vous-même, donc, vous avez fait le plaidoyer devant ce conseil. Alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ?
Oui, bon, ce que nous constatons, c'est comme Madame Pillay elle a dit aussi. Donc, on en parle tout le temps, on organise des ateliers, mais la situation ne s'améliore pas. Il y a des plus avancées, mais bon, la guerre continue. On fait un pas devant et puis on recule de 10 pas derrière. Tant qu'il y aura des groupes armés, on ne va pas voir le changement, on ne va pas voir l'impact de tout le travail qu'on est en train de faire. Pour nous, il est capital, il est très important qu'il n'y ait pas la guerre, qu'on arrive à éradiquer tous les groupes armés et alors impliquer les femmes survivantes dans la reconstruction.
Alors, qu'en est-il justement de ces problèmes d'impunité jusqu'ici, on pointe souvent du doigt l'impunité. Vous parlez vous-même des victimes qui finalement ont toujours du mal à se faire entendre parce que c'est jamais facile de témoigner quand on est victime de ce genre de violence.
Oui, c'est pas facile de témoigner parce qu'il faut prouver qu'on a été violé et les preuves, il faut les conserver. Il faut avoir l'attestation médicale et cela ne suffit pas. Il faut montrer les traces. Il faut convaincre le juge que réellement on a été victime. Donc ça, c'est pas facile de l'exprimer, de le présenter. Il y a quand même des femmes qui arrivent à donner des preuves et avec l'accompagnement de nos avocats, là, on arrive à gagner les procès. Mais l'impunité aussi est entretenue par les autres groupes qui sont dans les pays étrangers. Donc, les pays voisins, signataires de l'accord cadre, qui jusqu'aujourd'hui protègent les criminels dans leur pays.
Entre parenthèses.
Bien sûr, il y a des problèmes au niveau de la juridiction congolaise. Il y a des magistrats qui n'intériorisent pas la loi réprimant les violences sexuelles. Il y a des policiers, différents acteurs qui devaient aider les femmes à bien documenter le cas, à bien rédiger le PV. Ils n'arrivent pas à le faire correctement. Et là, ça fait qu'à la fin du compte, on dit non, il n'y a pas de preuves. Mais nous faisons nos efforts pour former, pour recycler, pour la mise à niveau des différents acteurs. On fait aussi des rencontres pour discuter autour de ces obstacles pour l'accès à la justice pour les femmes et nous arrivons à avoir des résultats parce qu'il y a des jugements. Donc, la question des violences sexuelles est banalisée, même au niveau international, parce que même au niveau de la Cour pénale internationale, on ne voit pas le résultat. La Cour n'a jamais puni quelqu'un des crimes de violences sexuelles et pourtant, ça a été décrié. Tous les groupes armés, ils ont commis des crimes de violences sexuelles sur les femmes. Il y a un effort qui doit être fait collectivement au niveau international pour combattre ces crimes.
Et ce que vous voulez dire par là, finalement, c'est que depuis que cette mobilisation internationale a débuté, il y a quelques années, finalement, les progrès ne sont pas suffisamment visibles, finalement, si l'on prend en compte toute cette mobilisation jusqu'ici, dont vous faites partie, d'ailleurs.
Oui, le mal est profond. Hein? L'ampleur du problème est trop grande. Donc, et le changement de mentalité ne va pas s'opérer en un jour. Donc, c'est petit à petit que ça va s'améliorer.
Alors, est-ce que vous pensez justement qu'au niveau, vous avez parlé de la justice internationale, on devrait mettre en place une structure, notamment un tribunal mixte, par exemple?
Oui, nous pensons qu'il est important qu'il y ait un tribunal mixte, ou on appelle ça chambre mixte, ou cour spécialisée, pour combattre ces crimes au niveau de la RDC. La CPI n'a pas la capacité de punir et d'arrêter tous ces criminels. Donc c'est mieux qu'on puisse avoir un tribunal spécialisé pour le Congo, pour que tous les criminels soient jugés et arrêtés. Et aussi pour aider à la réforme de l'appareil judiciaire congolais.
Ces victimes, hein, forcément, il faut qu'elles aient des compensations, on parle de réparation. Vous avez pour cela des avocats, mais ça demande beaucoup d'argent, ça, de défendre ces victimes. Donc finalement, on est toujours dans le problème financier, là.
Oui, on est dans le problème financier, parce que surtout les groupes de femmes n'ont pas de financement, n'arrivent pas à obtenir le financement. On a des petits moyens qui n'arrivent pas à répondre correctement aux besoins des victimes et aussi à faire l'éducation, la sensibilisation suffisante pour qu'il y ait un changement de mentalité.
Merci beaucoup, Madame Lussange, et à très bientôt. Chères auditrices et auditeurs, le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique est sur Facebook. Cliquez sur like si vous aimez. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette page, sur des sujets qui vous concernent et vous intéressent particulièrement. Vous pouvez également proposer des invités, proposer des sujets et participer à une émission. Vous pouvez écouter le magazine au féminin sur le site de La Voix de l'Amérique. Cette émission hebdomadaire est diffusée tous les samedis à 19h30, temps universel. À présent, nous allons parler à la ministre congolaise du genre, de la famille et de l'enfance, Geneviève Inagosi, qui a également participé à cette session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur les violences sexuelles en RDC. Madame la ministre, merci beaucoup pour cet entretien. Alors, il a été constaté finalement par les Nations Unies que malgré les grands progrès entrepris par le gouvernement, eh bien les violences sexuelles, ça continue. Alors, quelle est votre réaction, s'il vous plaît, Madame la ministre?
Oui, effectivement, les violences sexuelles continuent en République démocratique du Congo parce que les causes fondamentales qui entraînent ces violences persistent. La cause fondamentale, c'est la situation des guerres que traverse notre pays depuis plus de 20 ans. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les violences sexuelles continuent à se perpétuer, à se multiplier parce que la situation des guerres persiste. La solution, je pense, pour l'instant, est de mettre fin à la guerre pour pouvoir réduire sensiblement la situation des violences sexuelles. C'est vrai qu'en plus de ça, il y a d'autres causes qui sont également à la base des violences, mais pas avec la même ampleur que la guerre. Mais ces causes-là pourront être éradiquées dans le temps. Il y a par exemple le problème de l'inégalité entre les sexes. Et c'est pas un problème propre à la République démocratique du Congo. Dans tous les États du monde, il y a des problèmes des inégalités encore entre les femmes et les hommes. Il y a le problème de la pauvreté, le faible pouvoir économique des femmes. Et il y a ce problème-là qui vont être traités, mais pour l'instant, si vraiment nous voulons éradiquer les violences sexuelles ou réduire l'ampleur des violences sexuelles, il faut arrêter les conflits en République démocratique du Congo.
Mais alors finalement jusqu'ici, parce que bon, on avait le sentiment, alors bon, c'était peut-être très médiatique, mais que une fois les activités du M23 éradiquées, tout cela serait résolu. Et puis aujourd'hui, on constate que bien que ce soit moins médiatisé, qu'il y a des tas d'autres groupes encore, des groupes ougandais, des groupes rwandais, enfin les FDLR, le ADF Nalu, etc., des milices locales. Et si l'on a bien compris, la situation reste la même pour les populations là-bas. Les populations sont encore violentées.
Effectivement, la guerre a changé de front. C'est C'est vrai que les M23 ont été neutralisés, mais il y a encore tant d'autres groupes armés internationaux et même nationaux. C'est le cas des groupes que vous venez d'évoquer, les FDLR rwandais, les ADF Nalu ougandais, les LRA, les groupes armés locaux. Et il y a pas mal encore de foyers de tension, de groupes d'insécurité qui font que les violences sexuelles continuent à être perpétrées sur les femmes, sur les enfants, et même l'enrôlement des enfants au sein de l'armée. Donc c'est dire que la paix en République démocratique du Congo n'était pas seulement le problème du M23. La paix, c'est d'abord l'éradication de tous ces groupes armés et la pacification totale du pays. Donc nous avons encore des problèmes. C'est peut-être moins médiatisé aujourd'hui que ça ne l'a été il y a plusieurs mois, mais je pense qu'il est important de savoir que la guerre se poursuit en République démocratique du Congo avec ses graves conséquences sur les violations des droits des hommes, dont le viol sur les femmes.
Alors justement, vous, au sein de votre ministère, dans ce grand pays, de quel pouvoir disposez-vous finalement pour faire changer les choses en tant que ministre du genre ?
Je ne peux pas faire changer les choses seule. Je travaille au sein d'un gouvernement et vous savez que le secteur du genre est un secteur transversal. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres ministères, avec le ministère de la Justice. Je suis d'ailleurs à Genève avec Madame la ministre de la Justice parce que la lutte contre l'impunité est un volet très important dans l'éradication des violences sexuelles. Nous travaillons également avec le ministère de la Santé parce que les victimes doivent être prises en charge. Il faut une prise en charge médicale. Nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales, la Solidarité nationale pour l'assistance multisectorielle en faveur des victimes. Nous travaillons avec le ministère de la Défense, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité. Donc c'est ensemble au sein de la stratégie nationale de lutte contre le VIH-SIDA que nous donnons une réponse. Et cette réponse, nous la donnons avec le concours de nos partenaires de la communauté internationale, que ce soit les agences du système des Nations Unies et même les autres organismes internationaux avec lesquels nous traitons de cette question-là.
Parole de femme.
Et l'on sait que depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, des efforts importants sont faits, notamment par vos ministères, par le gouvernement congolais. Quand on entend encore les chiffres, qui sont absolument effrayants, est-ce que vous n'êtes pas finalement débordé par cette situation ?
Non, être débordé, ce n'est peut-être pas le cas de le dire, mais nous sommes seulement préoccupés. Et nous ne sommes pas seulement préoccupés comme ministre, il n'y a pas que nous qui sommes préoccupés, il y a l'ensemble du gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République lui-même, qui est très préoccupé par les questions des violences sexuelles, au point même de décider, il y a quelques mois, de nommer son représentant personnel sur les questions pour les suivre. Parce que c'est par moments des questions, des statistiques, des chiffres qui sont utilisés pour des besoins purement de mobilisation de ressources, alors que c'est des questions sérieuses, c'est des crimes odieux qui sont commis sur les femmes, sur les filles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une préoccupation auquel nous sommes appelés à répondre. C'est vrai que le défi est encore majeur parce que la cause principale, c'est la situation de guerre qui traverse notre pays. Et nous en appelons pour ce faire à la communauté internationale de soutenir les efforts de la République démocratique du Congo, les efforts de son président de la République pour venir à bout sur les questions des violences sexuelles. Mais également pour lutter contre l'impunité, de sanctionner les auteurs des violences sexuelles qui sont hébergés dans des pays voisins connus. Ils sont poursuivis, mais ils ne sont pas livrés. C'est également à la communauté internationale d'aider la République démocratique du Congo à punir certains auteurs. Nous savons que la guerre à la République démocratique du Congo est due à la convoitise en rapport avec ses ressources naturelles. Plusieurs rapports d'experts des Nations Unies ont condamné certaines multinationales et même des pays voisins qui trafiquent illicitement les minerais de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est le moment d'appliquer les sanctions si vraiment nous voulons que la guerre se termine, mais aussi de punir tous ceux qui livrent les armes aux groupes armés de la République démocratique du Congo.
Quelle serait la prochaine étape maintenant si l'on voulait vraiment avancer d'une manière plus conséquente? Est-ce qu'il faut passer par la CPI?
Il ne faut pas forcément passer par la CPI. De toute façon, la République démocratique du Congo a toujours collaboré étroitement avec la CPI. Ceux qui seront appelés à venir à la CPI viendront. Mais je pense qu'il faut agir. Il faut sensiblement, véritablement appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour éradiquer les groupes armés. Il y a actuellement une traque contre les FDLR. Et il y en a contre les ADF Nalu, il y en a contre les ELERA, il y en a contre d'autres groupes armés nationaux qui sont instrumentalisés justement contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il faut agir avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus d'engagement. Et nous remercions la contribution de la communauté internationale qui a beaucoup soutenu les FRDC pour neutraliser les M23. Je pense qu'avec la même volonté, on peut parvenir à neutraliser les autres groupes armés internationaux et même nationaux et à restaurer définitivement la paix en République démocratique du Congo et à éradiquer le phénomène des violences sexuelles qui sont liées à la situation de guerre.
Alors, pour terminer, Madame la Ministre, histoire de nous rassurer finalement, parce que malheureusement, on comprend bien, ces violences sexuelles continuent, mais dans le même temps, on comprend en parallèle que vous fournissez des efforts concrètement. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu, je ne sais pas, des jugements qui se seraient avérés positifs, nous citer quelques chiffres de personnes sous les verrous qui n'en sortent pas au bout de 3 ans?
Je n'ai peut-être pas devant moi toutes les statistiques que je peux vous citer, mais je peux vous dire qu'en ce moment, je pense que vous avez entendu parler du viol de Minova qui serait perpétré par certains éléments des FRDC. Le procès est en cours. Vous connaissez le procédure pour les juristes et vous savez que le procès est en cours et ça, c'est à l'initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est le fait peut-être de vouloir généraliser. Il y a quelques éléments qui se sont montrés indisciplinés, qui ont agi tels qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas pour autant qu'il faut généraliser, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que tous les éléments des forces armées ont violé. Non, c'est quelques éléments indisciplinés, comme ça peut exister dans certaines armées à travers le monde. Et le gouvernement en a pris conscience et le gouvernement les juge. Et quand les responsabilités seront établies, elles seront traduites en justice et ils vont purger leur peine. Il y a même des officiers supérieurs des FRDC qui ont été condamnés pour viol, qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Les cas sont légion. Je pense qu'avec un recul et avec tous les documents, vous aurez des statistiques plus précises qui traduisent l'engagement et la détermination du gouvernement congolais et de son président de la République à faire des violences sexuelles son cheval de bataille.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Geneviève Inagosi, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfance en République démocratique du Congo. À bientôt.
Je vous en prie.
Ooh.
Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. Et sur cette même question des violences sexuelles dans l'est de la RDC, j'ai contacté à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, pour connaître sa réaction. Écoutons-le.
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts et nous souhaiterions que nos partenaires, comme le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme, puissent nous aider à réussir ces efforts pour éradiquer ce fléau de notre pays. Nous avons quelques problèmes avec la méthodologie qui est utilisée par les représentants du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés ici en République démocratique du Congo, qui se limite souvent à relayer des rumeurs, à refuser de nous donner des informations plus détaillées sur les accusations qu'ils relaient, par exemple les noms des victimes, les noms des coupables, les circonstances de temps et de lieu, alors qu'ils sont dans le pays pour nous assister dans ce sens-là, pour rendre la répression prompte et certaine. Au lieu de cela, on se croit devant un magazine qui fait du sensationnalisme. On a dit que, il paraît que, et nous avons souvent des polémiques à cause de cela. Nous ne cesserons jamais de demander à nos partenaires, ici il s'agit du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, de se montrer beaucoup plus détaillé pour permettre au gouvernement d'agir, de cesser de se comporter comme une caisse de résonance des rumeurs que l'opposition, qui est très prolixe chez nous, répand parfois pour des raisons qu'elle-même n'avoue pas. Et ça nous met beaucoup en difficulté de bénéficier de manière efficiente de cette collaboration que nous avons acceptée de gaieté de cœur de la part des instances des Nations Unies en charge des droits de l'homme. C'est le problème que nous avons.
Voilà, c'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, joint à Kinshasa. Et c'est ainsi que se termine le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Merci de l'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you rise.
Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaoleza mama, which simply means, hurry mama, please, please don't let them catch you. Kaoleza mama, Kaoleza mama, Kaoleza mama, Kaoleza mama, Kaoleza mama, sheshi sawo. Nanga mapoisa zongene ndi.